Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU en mode Lost and Found, des restrictions religieuses, un café coréen dans la tourmente, une investigation sur le workslop bot sitting et bot cheating, et le mondial en fond sonore avec ses délits d'initiés sur Polymarket. L'équipe aujourd'hui touffe Benoît Daskritch et Gabriel. J'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Ok, on y va.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour Touf, bonjour Benoît. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui te dis que, bouf, le bac, dans quelques années, le tout sera de choisir le service LLM qui correspondra le mieux au programme de philo. On avait commencé la saison par un constat sur la révolution intelligence artificielle que j'avais titré pour la provoque « Rage Against the Learning Machine ». L'enthousiasme de certains et la répulsion exprimée par d'autres font que les commentateurs écrivent et pensent, pas forcément dans cet ordre, un peu n'importe quoi sur les IA. Rappelons que l'explosion récente est due aux LLM, les Large Language Models, qui ne sont qu'une toute petite branche de ce modèle informatique. Et rappelons aussi que sa portée dans le monde professionnel est telle qu'un directeur de faculté français s'est cru malin de dire en conf que son prochain livre sera entièrement écrit par une IA, comme il venait de le faire pour la dite conférence. Pour le bac de philosophie, il peut répondre sur ce qu'est que l'audace, mais bizarrement, il semble avoir du mal à assumer. Bref, quelle est encore la place de l'intelligence humaine et celle de nos responsabilités? Doit-on appliquer aveuglément la puissance de modèles statistiques amplificateurs de biais? Quid des emplois disparus dont les compétences n'existeront que dans le cloud? Peut-on s'abandonner à l'ivresse du prompt face à la casse sociale? Une tribune en cours de rédaction parle d'hiver numérique. Son titre illustre bien l'angoisse de l'inconnu. Une voix qui a apporté cette année une analyse plus posée de l'apport à l'humanité de l'intelligence artificielle est bizarrement venue de l'Église catholique, et plus exactement de son chef spirituel, le pape Léon XIV. Petit rappel historique. Comme toutes les religions qui revendiquent l'exclusivité comme autorité morale, l'Église catholique s'est souvent plantée, même gravement. Elle a été à l'initiative de nombreux massacres, a justifié de traiter les femmes et les esclaves en objets, de torturer scientifiques qui ne faisaient que décrire le monde réel, et même durant le XXe siècle, elle s'est souvent montrée détestable, en cachant de la justice des hommes ses prêtres pédophiles, en prônant l'homophobie, en rabaissant la place de la femme au point de stériliser de force des indigènes, en poussant les mal nommées thérapies de conversion, sans oublier le discours de Jean-Paul II en 1993, niant l'efficacité des moyens de prévention contre le sida comme le préservatif. Une sortie dictée pour des raisons de stratégie concurrentielle face à une autre religion, dont les conséquences furent des millions de morts évitables d'une maladie sexuellement transmissible. Alors qu'a sorti le Vatican, cet État spécialiste des ingérences étrangères, à propos des larges modèles statistiques? Qu'ils sont l'instrument du diable? Oh non! Une IA possédée par un démon! Ta carte mère suce des bits en enfer! Par sœur Marie Kenneth-Keller, demeure, vile créature! Non, sans rire. Bah c'est presque l'inverse. Pouf pouf, le pape parla donc. Dans la première encyclique de son pontificat, texte intitulé Magnifica Humanitas, latine in textu, mais depuis Vatican II nous avons des traductions officielles en langue vive, le souverain pontife Léon XIV demande à ce que les IA soient régulées. Le sous-titre est explicite. Sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. D'entrée, le texte pose une analogie avec un mythe biblique. Oui, ils aiment bien revenir à leur science-fiction favorite. Celui de la tour de Babel. Je cite « L'idolâtrie du profit qui sacrifie les plus faibles, l'uniformité qui gomme les différences, la prétention d'un langage unique, y compris numérique, capable de tout traduire, même le mystère de la personne, en données et en performance. » Alors jusqu'ici, le texte est parfait. Le rappel des objectifs de Vatican II, les vœux pieux, la course folle à l'argent, la déshumanisation, on ne peut qu'y adhérer en tant que membre de l'humanité. Surtout face aux excès de l'administration Trump qui pousse l'usage de l'IA à tous les étages de l'exécutif américain, de la Maison Blanche, son octogone, jusque dans son ministère de la guerre, le Pentagone. En fond du futur immédiat, c'est pas l'encyclique du pape qui me gêne, c'est ce qu'il a fait dans la foulée. Il s'est mis à distribuer des exemptions religieuses, des certificats indiquant que son porteur ne peut travailler avec une intelligence artificielle car le principe de l'IA heurte profondément ses convictions religieuses. Et pas uniquement à cause du syndrome de Dieu devant ChatGPT. Je ne plaisante même pas. Une développeuse américaine a obtenu du pape un papier disant à son employeur, une grande entreprise de code logiciel, que la forcer à travailler avec une IA heurte sa morale chrétienne. Ce qui donc ouvre la voie de multiples possibilités de procès par cette codeuse pour discrimination religieuse. Et donc, Léon XIV distribue à tour de férule ses papiers d'excuses qui vont donner de sérieux maux de tête aux services ressources humaines et juridiques des entreprises. Il est passé du théologique au juridique. Natif de Chicago, celui qui est civilement Robert Francis Prevost, sait combien l'appareil judiciaire américain peut être un purgatoire. Il vient de multiplier les pains bénis aux avocats. Comme si c'était pas déjà assez compliqué entre les juifs et les arabes qui refusent de venir pour une mise en prod le vendredi soir, les vegans qui n'acceptent plus que leurs voisins de bureau mangent un jambon beurre à midi, et les pastafariens qui exigent de porter leur passoire comme couvre-chef lors des réunions clients. Là, j'ai l'athéisme chatouilleux. Lors de la présentation de cette encyclique, aux côtés du souverain pontife, se tenait Christopher Ola, le fondateur d'Anthropic. Car l'éditeur de l'IA Claude revendique une certaine morale. Il a refusé ce printemps un contrat avec le Pentagone, que son IA serve, comme Grok, à déterminer quelle école de petites filles est à bombarder en Iran, ou quels pêcheurs vénézuéliens seront incinérés préventivement si jamais ils devenaient trafiquants de drogue. Ça l'empêchait de dormir. Je le comprends. Mal lui en a pris. Anthropic a trop bien fait sa pub de Claude Mythos comme outil débusqueur de failles de sécurité. Trump lui a interdit de proposer ses modèles hors des États-Unis. Un autre moralement emmerdé par cette encyclique, c'est J.D. Vance, le vice-presse de Trump. Bah oui, il est récemment converti catholique et d'une ferveur débordante comme un inquisiteur espagnol. En participant au déploiement forcé de l'IA au Pentagone, il va contre le pape. Donc, selon la jurisprudence catholique, J.D. Vance commet une hérésie. Or lui, les hérétiques, il aimerait bien les passer au napalm. Comment peux-tu concilier ton désir d'écraser par le sang toute opposition à tes croyances quand tu deviens toi-même infidèle à ton chef spirituel? Bon, tu me diras, quand tu participes à une guerre de religion, ton sens moral disparaît brusquement, on n'est pas à une excommunication près. Que l'Église ouvre une réflexion ouverte sur l'impact sociétal d'une technologie n'est pas une mauvaise chose. Par contre, qu'elle tende vers un dogme fermé où toute tentative de discussion sera totalement vaine, là, non, l'humanité ne va pas du tout dans la bonne direction. Car n'oublions pas qu'une religion est basée sur des croyances qui supportent très mal la contradiction. Sinon, on en serait encore à croire que la Terre est au centre de l'univers, créé il y a 6000 ans, et qu'en son centre, on brûle les papas et les mamans qui l'ont fait en dehors du mariage. Ouais, et encore, la mise à jour sur la création n'est pas encore passée dans toutes les sphères de la chrétienté. Ce n'est pas parce que le camp d'en face aussi a décidé de déléguer son cerveau à un ami imaginaire qu'il faut continuer à faire pareil. Le problème est là. En délivrant des excuses officielles de ne pas utiliser l'IA des professionnels pour leurs convictions religieuses, on crée une situation où aucun dialogue raisonné n'est possible, et ceci des deux côtés. Et si tu veux une autre démonstration par l'absurde, je te renvoie sur l'église du monstre spaghetti volant dont on a causé sur cette antenne tout récemment. Sommes-nous arrivés au début du djihad butlérien de la Bible catholique orange, s'attaquant à toute machine sentiente telle qu'imaginée dans son roman Dune par Frank Herbert? Je ne sais pas. Mais ce qui a été imaginé il y a 60 ans comme se produisant dans un millénaire nous tombe déjà dessus. Ouais, les ouvrages de science-fiction sont rudes. Personnellement, j'accorde bien plus d'importance à la déclaration de Laid où 2300 mathématiciens demandent à ce que les humains reprennent la main sur les IA, ayant formellement identifié 5 menaces spécifiques aux sciences mathématiques. 1. La difficulté de distinguer des arguments plausibles de réelles preuves mathématiques. 2. L'effacement de sources originelles des arguments. 3. La mise au rebut des mécanismes de reconnaissance professionnelle. 4. Le fait de privilégier des communiqués de presse plutôt que des articles relus par des professionnels. 5. Le refus de l'autonomie de la recherche en mathématiques par rapport à ce qui est facilement prouvable par des IA d'entreprise. Je fais bien plus confiance à des mathématiciens pour manipuler des nombres irrationnels sans que cela vire à Game of Thrones. Oui, l'IA pose des soucis très nombreux et il y a urgence à réfléchir parce que l'IA est une technologie pratique et qu'elle va rester après son crash boursier comme le web est resté après 2001. Et donc les questions à répondre sont: fait-on un usage raisonnable de l'IA ou l'utilise-t-on pour n'importe quoi au détriment d'autres solutions plus efficaces et précises? Un peu comme pour les débuts de l'impression 3D en rep-rap où tout le monde produisait des caca-objets et les offrait comme ton premier collier de nouilles en maternelle. Sur quoi l'IA s'entraîne-t-elle? Et vu les montants spectaculaires des sommes en jeu, ne devrait-elle pas rétribuer en retour l'humanité? Notamment artistes, auteurs, intellectuels, scientifiques, journalistes, etc. Ou même le revenu universel, comme le suggère Elon Musk. Ne donne-t-on trop d'espace physique à l'IA avec les multiples data centers gigantesques en construction? Et surtout, qui est responsable moralement des actes des IA? Les entreprises éditrices de ces IA? Leurs intégrateurs? Ou leurs utilisateurs? En fond du futur immédiat, on se doutait que l'IA allait très profondément transformer nos emplois, nos usages, nos coutumes, nos sociétés. Il reste un rôle très important pour les humains. En discuter, guider, légiférer, mais avec raison, avec des arguments tangibles et rationnels. Quand je vois aussi bien les délires de certains trop enthousiastes que de l'autre côté les chiffres sortis de nulle part sur les coûts écologiques, uniquement pour faire du sensationnel, j'ai peur que nous partons vers des conclusions très très brumeuses. Val, Veridisco, une reprise de Daft Punk par le groupe de Barcore qui sort son deuxième album où ils annoncent des reprises de Muse, Adele, Coldplay, Chapel One et d'autres encore. Vous écoutez Radio Éphémère, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, de suite notre première édition de news pour juin, avec l'ensemble de la rédaction Touf et Benoît.
Gabriel est toujours en arrêt maladie ?
Oui.
Mais c'est un accident !
Justement, on n'est jamais trop prudent.
Suffit vous deux, on est à la bourre. Touf !
Nous commençons par une nouvelle qui nous chagrine, l'annulation de l'édition 2026 de l'Agile Tour Toulouse prévue les 25 et 26 juin. Des sponsors moins nombreux et surtout un public bien moins présent. Les attentes du public seraient différentes pour les organisateurs et plutôt que risquer les finances de l'association, ils réfléchissent sur comment répondre aux questionnements actuels de la communauté. Voyez-y soit une procédure d'amélioration, soit des occasions de boire plus souvent à la Gilbière. Rendez-vous au prochain sprint!
On l'a déjà traité dans cette émission, la prise USB-C est désormais obligatoire pour charger la plupart des appareils en Europe, ce qui a forcé Apple à abandonner sa prise Lightning propriétaire. Sauf pour les goodies du service communication de l'Union Européenne. Numérama raconte comment ce service chargé du Centre de presse international de Bruxelles a offert aux journalistes accrédités des kits micro sans fil pour iPhone avec prise Lightning, la prise propriétaire d'Apple, au lieu d'une prise USB-C. Et le plus drôle étant que le fabricant propose pourtant cette version plus conforme aux standards européens. Bah alors, et les journalistes sous Android ?
On voit bien que c'est Daskridge qui a écrit cette brève. Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft, est décédé dans le crash de son petit avion de tourisme vendredi 19. La perte d'un grand capitaine d'industrie, au moment où son studio de jeux vidéo est déchiré par des crises internes, la fermeture de plusieurs studios et l'arrêt de production de plusieurs jeux, pourtant attendus.
20 ans après le lancement d'Android, une plateforme ouverte et son Google Play qui autorise d'autres marketplaces d'app, Google revient dessus et exigera désormais des développeurs qu'ils aient une identité vérifiée. Car le très gros souci d'Android est la prolifération d'apps douteuses et problématiques. Le service entame sa mue le 30 septembre au Brésil, Indonésie, Singapour et Thaïlande, pays où les apps arnaqueuses sont légion. Cela impactera aussi le chargement en sideloading d'apps, puis le système sera étendu à d'autres marketplaces d'apps, comme Samsung et Xiaomi, et d'autres pays. Ars Technica tente de résumer le move, la procédure, les inquiétudes et le calendrier. Reste à voir comment ils vont arriver à concilier ce renfermement avec la Commission européenne.
C'est à rendre folle la Fédération française de la loose. Le prix de la plus belle faille de sécurité n'échoua plus à la France. Le titre a été perdu suite à un dépôt depuis une date inconnue d'un fichier avec des noms de comptes et des mots de passe en clair dans un repository public du GitHub de l'agence américaine de cybersécurité. Ouais. De la US Cyber Security and Infrastructure Security Agency, CISA. Un repository nommé Private CISA, peut-être ce repo date de la création de l'agence en 2018, lors du premier mandat de Trump. Y a pas à dire, les Américains savent mettre en scène des catastrophes spectaculaires. Aucun missile nucléaire n'a encore été lancé au moment de l'écriture de cette news. Pourvu que ça dure.
Malgré 1,3 million de signatures certifiées de citoyens européens, la Commission européenne n'examinera pas de projet de loi sur l'obsolescence des jeux vidéo, estimant n'avoir aucune base légale pour arriver à contraindre les éditeurs de maintenir fonctionnels leurs jeux vidéo après expiration de leur commercialisation ou fermeture de leur plateforme. Depuis la connectivité des consoles de jeux, la plupart des jeux vidéo ne peuvent fonctionner qu'en se connectant à un serveur central, lequel peut être coupé à tout moment par les éditeurs. L'association Stop Killing Game annonce changer de map de combat et commence une campagne auprès du Parlement européen pour intégrer de telles mesures dans la Digital Fairness Act, dont le vote est prévu pour la fin de l'année. Dans ce texte, des dispositions sont prévues contre l'usage des dark patterns, le design addictif des apps, le marketing des influenceurs malhonnêtes, les pratiques déloyales ciblées et surtout obliger les entreprises à des contrats bien plus favorables pour les citoyens. D'ailleurs, en France, UFC Que Choisir est en procès avec Ubisoft suite à la fermeture des serveurs du jeu The Crew, rendant le jeu inutilisable. Pour Ubisoft, les joueurs paient pour une licence non pas perpétuelle mais forcément limitée dans le temps, là où l'association estime que les consommateurs n'ont jamais été informés sur la durée de celle-ci et donc ont été floués par une publicité trompeuse. Cette question de durabilité des jeux vidéo est d'ailleurs un très gros enjeu quant à l'archivage et la préservation des logiciels et créations culturelles.
C'était un des gros scandales de souveraineté numérique. La DGSI, les services de renseignement intérieur et de contre-espionnage français, avaient signé un contrat de 10 ans avec Palantir. Il faut dire que leurs commerciaux savaient survendre leur capacité de détection des signaux faibles dans les mégadonnées. Mais outre l'odeur de soufre dont se parfume Peter Thiel et que le statut d'entreprise américaine fait que Palantir ne garantit pas la confidentialité des données de ses clients, c'est le retour de Trump avec une politique archi-agressive et les très forts soupçons d'ingérence économique et politique de son administration qui ont motivé nos glorieux barbouzes de la piscine à choisir plateforme d'Argonos des Gaulois de ChapVision hébergée chez Scalaway.
Au service de la France !
La blague n'est pas finie. Palantir a appris la résiliation du contrat via une vidéo Instagram de Sébastien Lecornu. Ah oui, il l'avait pas vu venir.
Cloudflare, l'opérateur de proxy inverse, a testé de nombreux agents IA pour travailler sur la sécurité de son infrastructure. Dans leur rétexte intitulé « Projet Glasswing, ce que Mythos nous a révélé », ils passent en revue Cloud Mythos qu'ils ont eu en avant-première en version sans garde-fou. L'agent est capable de construire des proof of concept quand il découvre des failles, mais avec de très nombreuses limites bien sûr. Ainsi, demander la même requête mais avec des tournures de phrases différentes peut changer significativement ce qu'il va produire. Cloudflare pointe aussi un risque pour les entreprises de croire que patcher plus vite sera un gain, car un agent LLM, à la différence d'un humain, ne peut exprimer un degré de confiance dans une découverte ou la dangerosité réelle d'un comportement problématique. En clair, réfléchissez avant de foncer. Le document a été traduit entre autres en français, si votre N+1 a besoin de le lire.
EPI, Wero et 4 autres plateformes européennes de paiement interbancaires s'associent dans un regain de la souveraineté européenne. Désormais, pour les paiements par carte entre banques européennes, Visa et Mastercard passeront après le centre de transactions commun créé par le consortium. L'accord est déjà effectif et totalement transparent pour les particuliers et les entreprises. Merci Trump.
Macho, macho man.
Pourquoi je suis obligé de vous dire au revoir ? La direction de Google a perdu toute boussole morale. C'est avec ce texte que René Meyerhofer, directeur de la sécurité de la plateforme Android, a salué ses ex-collègues avant de claquer la porte. Il était arrivé en 2018, pile au moment de la révolte des développeurs Google contre Maven Project, un partenariat avec le Pentagone. D'ailleurs, c'est Meyerhofer qui avait signé l'accord de moralité. Or, quelques jours après l'investiture de Trump, pouf, les usages proscrits ont discrètement été supprimés par Google, ne mettant plus de limite de périmètre. Le motto « Don't be evil » est un très lointain souvenir. En tant qu'Européen, René Meyerhofer juge ce risque de militarisation inacceptable.
Work slop, butt sitting and butt shitting.
Quand l'IA au travail crée plus de travail qu'elle n'en supprime. Les travailleurs du numérique consacrent 2/3 de leur temps à babysitter leur IA, contre 36% à s'en servir réellement, conclut une enquête auprès de 6000 travailleurs anglo-saxons du numérique. Le rapport est ultra intéressant à lire, tout comme l'article dans Next Inc., article signé Jean-Marc Manac, signe d'un travail documenté, d'un article dense et long, mais exclusivement bio. Ça vous changera des résumés pétés de ChatGPT.
Le Flipper One est en cours de développement. Comparé au kit de hacking Flipper Zero déjà chroniqué dans notre émission, il sera bien plus gros, avec même 8 corps ARM, un GPU, un emplacement NanoSIM, un port M2, une sortie vidéo et 2 prises Ethernet. Ah oui, on a dit bien plus gros. Et il sera bien plus cher. Il perd néanmoins ses capacités en infrarouge, en NFC, en RFID et en Hertzien subgigahertz. Tous ceux qui faisaient l'intérêt de l'engin, comme les fonctions TV Beacon ou activer l'alarme du voisin. Tant pis, il reste les jeux.
Bamboo Lab était arrivé au statut de la marque respectée d'imprimante 3D chez les makers pour leur fonctionnement simplifié. La mécanique est open source, le logiciel aussi, mais pas trop. Le fabricant chinois a supprimé de leur logiciel de pilotage Orca Slicer des fonctionnalités bien pratiques. Le logiciel étant en licence AGPL V3, théoriquement open source, Pavel Jarzak a forqué le code pour restaurer ses fonctions. Bamboo Lab lui a envoyé dans les dents une lettre d'avocat le menaçant de procès. On rappelle que la licence AGPL V3 a malheureusement des chausse-trappes privatives. On en a parlé avec OnlyOffice et c'est exactement ce qu'avait fait Bamboo Lab. De l'open washing en ayant forqué un logiciel open source et en ayant ajouté dans une licence une clause privative. Louis Rossman, Gamer Nexus, Jeff Gerling ont dit prêt à mettre de l'argent si jamais Bamboo Lab venait aller au procès avec Pavel Jarzak. Et bien d'autres influenceurs et associations de makers. Résultat, une réputation ruinée et des annulations de commandes. Quand tu fabriques des imprimantes 3D open source, faut pas tenter de fermer et verrouiller matos et logiciels, c'est perdu d'avance.
Le rapport annuel de la CNIL est sorti pour 2025. L'exercice de communication est raillé dans les associations de respect de la vie privée sur un bilan jugé maigre et le manque de dissuasion de l'autorité. Et vu les fuites à répétition sur les fichiers d'administration française, maintenant que la CNIL n'a plus qu'un avis consultatif, on peut dire qu'elle est vidée de sa substance. Bon, on vous laisse juger, le lien sur le document est dans la page web de nos news.
Selon les résultats présentés par Ilia Dambé, Free Mobile n'a recruté quasi aucun nouveau client en 2025, stagnant à 15,7 millions d'abonnés. D'où l'intérêt de racheter le portefeuille client de SFR. Plus exactement, dans l'accord de rachat de SFR avec Orange et Bouygues, Free Mobile reprendrait les clients low-cost Rail by SFR. D'où l'intérêt du forfait Free Max qui recrute aussi bien à l'étranger et d'où les approches de clients SFR qui se sont vus offrir des forfaits Free 5G sur un an.
En 2024, un client de la Fnac achète un Lenovo IdeaPad Slim 3, séduit par son autonomie annoncée de 8 heures. Sauf que dans les faits, ben non, il a au mieux une autonomie de 6h30. Croyant un défaut, il le renvoie au SAV qui lui dit que non, l'engin est en état neuf. Bref, le ton monte entre le particulier et l'enseigne, et après médiation infructueuse de la FEVAD, ça part au tribunal qui donne raison à la Fnac. Revoyons l'action ralentie. L'autonomie annoncée des ordinateurs est calculée d'après MobileMark 2018, un protocole normé créé par les industriels de l'informatique et des smartphones. Klubik explique le protocole expérimental. Vous chargez à fond la machine, vous coupez Wi-Fi, Bluetooth, mobilité, etc. Vous mettez le son et la luminosité de l'écran au minimum. Vous lancez aucune appli sinon la lecture en boucle d'une vidéo au format basse définition. Comme il s'agit d'une norme reconnue internationalement, le tribunal ne pouvait que donner raison à la FNAC, même si ce protocole est complètement ridicule. Ah oui, petit rappel. Une batterie de laptop ou smartphone, vaut mieux éviter de la décharger en deçà de 20%.
Le groupe OkGo est très connu pour ses clips utilisant que des effets physiques, jouant avec des tapis roulants, des imprimantes, des effets d'optique, des drones ou un avion 0G. Et des fois, ça vous titille de savoir comment ils ont réussi leur coup, non ? En collaboration avec Google et la University of St. Thomas, ils ont ouvert un site pour les élèves expliquant, démontrant, voire incitant à reproduire certains des effets de 8 de leurs clips. Le site est ouvert à tous, en licence Creative Commons, mais en anglais, comme les paroles de leurs chansons. Vous pourrez vous consoler avec le fameux Tiny Concert pour la radio publique américaine NPR, donné en 2023, durant le déménagement de la radio. Alors pour le coup, c'était un live d'une chanson tournée 223 fois, un montage à pleurer de rire avec des animateurs de cette institution que Trump tente de couler, tel un vieux Charles à l'oncle.
Un décret français pourrait imposer aux fabricants de nouvelles obligations sur les vieux produits. Et en plus de garantir la disponibilité en pièces détachées sur une période à leur discrétion, ils devront désormais aussi proposer les patrons pour imprimer en 3D les pièces détachées obsolètes afin d'allonger la réparabilité des appareils électroménagers. Ça risque d'être complexe concernant les modèles déposés, les formes déposées, etc., qui s'appliquent aussi dans les autres pays, dans quel format de fichier proposer ces formes et sur quel site, service, repository. Mais ce droit est très intéressant à suivre. On attend le démoulage dans le journal officiel. On se souviendra que Boulanger et Leroy Merlin avaient proposé un tel service avec leurs appareils, initiative hélas arrêtée.
Nintendo a été condamné par la DGCCRF suite à la plainte de l'UFC Que Choisir pour les soucis récurrents des Joy-Con de la Switch première génération. Ayant systématiquement refusé de reconnaître un souci de conception entre 2018 et 2023, Nintendo a été poursuivi pour pratiques commerciales trompeuses et a convenu de payer une amende assez salée de 35 millions d'euros, qui iront dans le budget de l'État.
Menacé par une grève de 18 jours qui lui aurait coûté 2 milliards de dollars par jour, Samsung donne une prime exceptionnelle de 300 000 dollars à 78 000 employés liés à la production de puces suite aux résultats exceptionnels en matière de RAM DDR5 et DDR6 très demandés par l'IA et les spéculateurs. 36 milliards de pertes versus 23 milliards de participation bénéfices, le calcul y est vite fait. Heureux que ça ruisselle un peu, hein ?
On savait que Microsoft poussait très lourdement à la fin des licences perpétuelles vers des locations de services par mensualité. Mais là, ils vont chagriner leurs clients sur Mac. À partir du 13 juillet, Office 2019 sur Mac, iPhone et iPad ne pourra plus enregistrer de documents, mais seulement les consulter. Donc si vous avez acheté une licence perpétuelle Microsoft Office, attendez-vous qu'à un moment ou à un autre, ils refusent de créer de nouveaux documents. Oui, Microsoft a redéfini le mot « perpétuel ». Il ne s'applique désormais qu'en abonnement de service.
Nightmare Eclipse est un chasseur de bug bounty, un white hat qui déniche des bugs graves contre des récompenses des éditeurs. Il est en froid avec Microsoft qui refuse de lui payer ses 6 dernières découvertes sur Windows. Alors que 3 d'entre elles ont commencé à être activement utilisées, et puisque les relations avec Microsoft sont à l'orage, Nightmare Eclipse a annoncé que le 14 juillet, il publiera des Zero Day Exploits très critiques sur Windows, avec pour teaser quelques ZDE assez croquignolés.
Le 14 juillet ?
Le 14 juillet.
Oh, le label bleu !
Toutes les sources sont sur la page web des news de cette release, cpu.pm/245. Les infos reviennent après d'autres minutes dérisoires.
J'en profite pour vous remercier durant notre rétex des coulisses pour vous dire que le redémarrage du programme après 18 mois d'interruption ne semble pas trop loupé. Au contraire, puisqu'on a eu de chouettes retours. On en parle dans notre courrier des audilecteurs. Afin d'écarter toute ambiguïté quant au contenu de notre émission, nous avons publié sur notre site une déclaration morale qui a été validée par le bureau de radio éphémère. Voici ce qu'elle contient à ce jour. Nous rappelons que nous sommes exclusivement bénévoles, que par le statut de radio associative, nous avons des règles très strictes sur la publicité et le sponsoring. Notre production est exclusivement bio et nous limitons l'usage de l'IA générative. C'est nous qui sollicitons les interviews, même si nous étudions les propositions. Et enfin, nous évitons d'interviewer des personnes qui nous emploient ou même leurs concurrents directs.
Il y en a qui prennent vraiment nos fausses pubs au premier degré ?
Eh oui, et si vous voulez nous soutenir, le mieux est de soutenir financièrement Radio FMR par un don sur Hello Asso. Cela aide les plus de 70 émissions originales de la radio. N'hésitez absolument pas. Toujours sur notre site web, nous ne mettons plus de tags de sujets, même si cela complique un petit peu nos recherches documentaires. Deux tags sont utilisés, humour pour bien signaler quand une chronique n'est pas sérieuse, et un nouveau tag, transcription manquante, afin de signaler à notre public sourd que le contenu audio est plus complet et en espérant un jour transcrire ces contenus. Et justement, pour ces transcriptions manquantes, doit-on supposer que maintenant que l'IA peut faire le taf ? Sur nos tests, on voit qu'elle est très vite perdue sur les thèmes techniques, du moins avec les quelques moteurs testés. On serait ravis que des personnes tierces passent les sonores en reconnaissance vocale et après corrigent le texte. Vous êtes prévenus, hein ? Cela peut être très chronophage. Toujours à propos du site web, le design a été fait à l'arrache au moment du lancement de l'émission et un peu retouché par période. Cet été, on va en profiter pour lui redonner un petit coup de propre, le simplifier et qu'il soit un peu plus pratique. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver dessus 245 émissions de CPU, les chroniques, les interviews, les liens documentaires. On l'a fait pour justement enrichir les discussions. Autre chose, nous, moi et Benoît, avons participé à l'animation de la Nothing to Hide Decentralized Festival le 30 mai dernier, dont l'organisation à Toulouse a été assurée par nos amis du Theta Lab. Nous espérions enregistrer le débat pour vous en proposer les morceaux choisis la semaine dernière. Hélas, je me suis bêtement foiré à l'enregistrement, la qualité sonore n'était pas au top pour être vraiment confortable à l'écoute. Nous avons publié les slides, les captations sonores des conférences et du débat, le lien est sur la page de cette chronique. Ouais, c'est con, ça m'arrive vraiment rarement. Et maintenant, tout à fait autre chose. Certains me demandent quel filtre j'utilise pour ma voix de tueur en série. Oui, cette voix. Aucun. Il n'y a strictement aucun filtre ou traitement. C'est 30 années d'expérience de micro. Je m'entraîne certains soirs sur les conducteurs de moto à peau d'échappement libre. Quand ils attendent que le feu passe au vert, je m'approche par derrière et je leur dis
« Il faut que tu suces maintenant ton pot d'échappement, là, de suite. »
Ah, ça explique l'épidémie de brûlure de lèvres.
Je compte me reconvertir en influenceur.
C'est... prometteur.
Enfin, on a passé un peu de temps pour remettre d'équerre le robot de diffusion de radio éphémère, afin notamment que les émissions préenregistrées, dont la nôtre, démarrent à leur pile. Le système antédiluvien se base sur une horloge franc-comtoise dont le balancier était gêné.
Attends,
par...
tu veux dire que maintenant CPU démarre à nouveau à l'heure pile, pile ?
Pile, pile. Et aussi toutes les émissions préenregistrées de FMR.
Non, parce que dans l'émission d'avril dernier, Gabriel a très bien imité le ton des infos de BBC Radio 1. T'avais visiblement programmé pour que ça parte exactement à 11h30, mais tu t'es fait piéger car le robot a démarré l'émission 3 minutes trop tard.
Oui.
Et là, il y a quoi ?
Une fausse pub.
FMR 89.1, corrosif.
Encore ?
Vous en avez marre que votre souris sans fil se décharge ? Ou de la perdre sous un papier ?
Nouveau !
Découvrez la nouvelle innovation de nos labos, la souris filaire. Elle ne se décharge pas, vous la retrouvez facilement, et en plus, elle est parfaitement résistante aux attaques radio-tempeste.
Et découvrez notre grande nouveauté, la souris filaire à prise USB-C. Fini de perdre du temps à retrouver quel côté de la prise est à brancher.
Une souris filaire ? Vous allez vous lier d'amitié avec elle.
Collection Altaïa présente...
Toutes les vis.
Découvrez l'univers fabuleux de la vis, le liant universel de l'industrie. Le premier numéro, sa vis FDH M36, série limitée noir mat et chanfrein bleu clin, et son fascicule de 32 pages, 1,99€ chez votre marchand de journaux.
Altaïa.
Vous administrez un serveur, un routeur ou une flotte d'entreprises ? Vous voulez améliorer votre pratique de lecture de log et de détection d'anomalies ? Rejoignez la Fédération Française de Lecture Sportive de Log Serveur. Toutes les informations sur notre site web ffslsls.fr. Fédération française de lecture sportive de log serveur. ffslsls.fr.
Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Sieste aux heures de bureau.
Éphémère.
Et pour la dernière avant l'été de notre courrier des audi lecteurs, on rappelle qu'on prend les commentaires sur notre site cpu.pm et sur les réseaux sociaux où nous sommes officiellement présents, Mastodon, Blue Sky, Linux FR, le journal du hacker, Ponos et LinkedIn. N'oubliez pas de nous taguer ou de nous envoyer le lien, vos retours nous font un bien monstre, sérieusement. Et sinon, n'hésitez pas à rediffuser nos messages ou à parler de nos émissions car nous avons besoin très sérieusement de votre aide pour rester visible et audible. Nous avons reçu Pablo Pernaud pour notre sujet sur les réseaux sociaux professionnels et son site ponos-jobs.eu et nous a fait un chouette retour sur son blog. Sur Instagram, à propos de notre couverture de l'émission sur l'ISP, on a eu un commentaire inutile signé « No face in medicine rock ».
Dommage que l'image soit de l'IA.
Eh ben non, totalement perdu. L'image de cet épisode est une vraie photo d'un vrai terminal Symbolix prise par François Proux à Boston en 2007 avec un Canon PowerShot et postée sur le Flickr, image que nous avons reprise car il l'a mis sous licence Creative Commons. Luke Skywalker s'exclame « ça alors » sur Linux FR, sur notre émission sur le Lisp et les systèmes experts.
Le grand orchestre du Splendid et les Malpolis, c'est cool. Mais Gouzen, chercheur en IA depuis des décennies, je ne m'y attendais pas.
Christian Busquet s'extasie sur cette même émission sur LinkedIn.
Fluide, Goussens, je suis fan. Je ne savais même pas qu'il faisait de l'IA. En 1977, j'ai acheté mon TRS-80 à Aix-en-Provence chez un distributeur Tandy. Excellente émission.
Alors, j'avais un petit peu teasé le sujet qui a été diffusé le 2 avril et beaucoup se sont demandé si on ferait un hoax très élaboré comme la série sur le Minitel. Mais là, il a fallu se faire à l'évidence. Non seulement nous ne vous avions pas menti, mais c'est un triste constat qu'un professeur d'université français sur un thème très en pointe en soit réduit à devenir dessinateur chez Fluide Glacial afin de se payer un Mac. Neolabs nous interpelle sur Blue Sky suite à l'écoute de notre émission 242 « Ramen ta pasta ».
C'était super. J'ai faim.
Se retenir d'envoyer une fausse pub déjantée de Coupe Noodle. Tandis que sur Linux FR, Panwen nous annonce que...
Étant un faux agnostique du monstre spaghetti, je te remercie de partager cette écriture écoute sainte. Je bookmark et hop, à table!
Sur Mastodon, AG57 nous fait la promo en vue de la prochaine vague de mesures médiamétrie radio.
Marre des matinales des radios. Écoutez à CPU. Ce matin, j'ai choisi Lisp et Goussen, c'était nickel.
Bon, moi personnellement, je vais être franc, moi le matin c'est France 24, France Inter et parfois CNN, BBC News, CNBC, Bloomberg, ça dépend. Et il y a quelques années, ben, j'écoutais aussi BFM Business et France Culture. Et vous, mes chers co-animateurs, c'est quoi ce que vous écoutez le matin, Touf ?
France Inter.
France Inter, ouais.
France Info.
Radio ou télé ?
Radio.
Oui, France 24, ça passe sur le canal de France Info à la télé, et c'est pas inintéressant d'ailleurs. Sur notre site web, dans notre chronique consacrée à la carte BC250 basée sur l'APU de la PlayStation 5 permettant de faire tourner Linux, Penpen a précisé...
À noter, il est possible depuis environ 2 semaines de tenter de réactiver tout ou partie des 16 CU désactivés de la partie IGPU. Les scripts sont disponibles sur GitHub, d'autres méthodes sont disponibles mais elles sont à base de patch du kernel. Ici on a une solution qui va résister aux mises à jour de Bazite SteamOS. Bien pensé à désactiver le gouverneur GPU, Oberon, CyanSkillFish ou tout autre que je ne connaîtrai pas. Lors de la phase de test, pour éviter de se retrouver bloqué avec un overclock trop important et donc une impossibilité de booter.
Notre chronique originale ayant été écrite fin avril début mai, cette information est sortie après, donc immense merci de l'avoir complétée. Et maintenant, autre chose. Thank you.
Cut, You and Me, Flume Remix, en live au Goslinzer Park de Berlin. Matt est en concert à Toulouse au Poney Club fin juillet, donc sur le tarmac de l'aéroport de Blagnac. C'est complet et on espère qu'il ne fera pas aussi chaud. Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre deuxième édition de news pour juin avec l'ensemble de la rédaction Benoît Etouffe. Nous enregistrons par plus 42 degrés dehors. Faites attention à vous, hydratez-vous bien et surtout de préférence sans alcool. Benoît frappe le coup d'envoi de cette seconde mi-temps.
iPlus est une marque de smartphone made in India à destination d'une clientèle indienne pour du matériel souverain. Marque avec une promesse importante, matériel et logiciel indien, zéro lien avec la Chine, zéro bloatware. Sauf que ces promesses sont mensongères et la boîte a des pratiques détestables. Notamment de poursuivre tout journaliste ou influenceur qui pourrait dire certaines vérités sur la marque. Toute vidéo critique sur AI+ est immédiatement censurée en Inde. Le youtubeur de test produit Mr. Who's the Boss a fait un travail d'investigation. La vidéo est intéressante sur le sovereign washing.
Comment voler les comptes Instagram de Sephora, de généraux américains ou de Barack Obama? C'est très simple, il suffit de dire à l'assistance IA que vous avez perdu votre mot de passe, que le formulaire de reset de mot de passe n'a pas accepté votre adresse mail et qu'elle renvoie le code de confirmation à une adresse mail plus facilement accessible pour vous. Merci Léa, tu es tellement pratique.
Celle-là, il faut la mettre pour le best-of de l'année. Frandroid livre un éditorial amer mais réaliste sur la nouvelle puce RTX Spark de Nvidia. Pourtant, la plateforme PC la plus excitante depuis l'IBM AT. Un ABU regroupant un GPU Blackwell de 6144 cœurs CUDA et un CPU à 20 cœurs ARM, partageant 128 Go de RAM LPDDR5X. Nvidia annonce 3 grammes de PC en collaboration avec Microsoft. Ulrich Rosier, cofondateur de Frandroid, regrette que le grand saut vers Linux n'ait pas été fait. Son argument, Nvidia vient de sauver les fesses de Microsoft face à la révolution smartphone et les nouveaux Mac d'Apple malgré l'immense dette technique de Windows. Nous remarquons qu'Ulrich oublie un peu vite que Linux a lui aussi une immense dette technique et celle des utilitaires comme GNU, des gestionnaires de services, de la couche graphique, de l'environnement de bureau, etc. Et surtout le célèbre « Nvidia, fuck you !» de Linus Torvalds qui doit toujours résonner à Santa Clara et Taipei.
Le site marchand Amazon peut générer des images qui n'existent pas pour des produits sans photo. Peu de gens semblent enthousiastes à cette idée. En Europe, on pourrait même considérer que ce procédé génère de la publicité mensongère. Déjà que c'est la croix et la bannière pour avoir des avis d'acheteurs réellement intéressants. Allez, cette idée d'un commercial enthousiaste, on l'a remise sur l'étagère des invendus ?
La chaîne de magasins Starbucks a souhaité passer à une gestion AI assisted de l'entreprise. On ne peut pas dire que cela soit un succès. La chaîne des shops baristas caféinés a retiré ses agents IA de la gestion de magasins. Ils avaient tendance à mal faire les inventaires. Déjà que les serveurs en caisse sont pas capables de noter proprement les prénoms. Moi-même, après 3-4 verres, je sais plus où j'en suis.
D'alcool ? Tu tiens pas l'alcool, toi ?
Non, de café. Je tiens pas le café.
Oh, la morale est save. Sein du sport protège l'antenne de radio éphémère du delirium tremens. Starbucks encore. Et IA management toujours. En Corée du Sud, Starbucks a réussi à transformer un événement commercial en boycott national. The Guardian résume ce ratage spectaculaire qui fera date. Un commercial de la branche sud-coréenne a demandé à une IA de générer des bannières et des visuels pour une nouvelle taille de gobelet en série limitée. Le tank, d'une contenance d'un demi-litre. Le commercial a l'envoyé pour validation à son patron par email. Email qui n'a peut-être pas été lu par un humain, faute de temps, mais par une IA qui a validé à sa place dans le cadre de la politique Management AI Assisted de Starbucks. Et donc tout s'est enchaîné as usual. Impression, réservation d'espace pub, réseaux sociaux programmés, livraison sur les points de vente de mugs et des PLV, sans se rendre compte que la date du lancement, le 18 mai que Starbucks avait surnommé Tank Day, est celle du soulèvement de Wanju en 1980 contre le coup d'état de Chun-Doo-Hwan. La répression sanglante par les tanks fit 165 morts et 65 disparus. Et comme si c'était pas la peine d'en rajouter, le slogan de ce Tank Day de Starbucks était « Toi quand de deck », cogné sur la table, qui se trouve être une fameuse excuse de la police justifiant la mort violente du dissident Park Jung-chul, torturé en 1987. Inutile de vous dire que la campagne publicitaire n'est pas du tout passée au pays du matin calme. Starbucks Korea a viré le matin même la direction et les commerciaux. L'actionnaire majoritaire de la franchise s'est excusé très platement dans une conférence télé à midi. Ça n'a pas suffi. Manifestation de clients mécontents, magasins vandalisés et devoir national de couper tout lien avec la chaîne. Les administrations et entreprises ont définitivement annulé tout contrat avec Starbucks. Petit point positif pour Starbucks, l'extrême droite antidémocratie a racheté le stock de mugs qu'elle distribue à ses militants. Le problème n'est pas que les IA des commerciaux et celles du patron ne connaissent pas l'histoire, mais qu'elles ont intégré le narratif dans la campagne de pub sans en comprendre la portée émotionnelle. Le Management AI Assisted, c'est peut-être une connerie.
Allongé sans sucre, merci.
Mais tu viens de me dire que tu lui tenais pas le café ?
J'ai menti, j'avais lu ta news.
Enchaîne.
Un chercheur en sécurité a reverse engineer un SDK pour téléconnecter fourni par Bright Data, utilisé par plus de 150 millions d'appareils. Celui-ci transforme sans votre consentement votre appareil en élément de botnet, en point de sortie pour un VPN gris, pour des opérations de scraping par IA et d'autres usages très peu recommandables. L'étude montre que les Smart TV, Android TV, iOS, Tizen, etc. sont régulièrement abusés. Alors il se trouve que notre producteur adoré aurait une liste de VPN commerciaux qui utilisent ces points de sortie, très utilisés entre autres pour du spamming, des opérations de manipulation d'opinion, de la veille concurrentielle ou par des crawlers d'IA. Bref, si c'est gratuit, c'est vous le produit, et méfiez-vous des radios associatives gratuites, il y a sûrement un truc.
Et pour la page économique, nous retrouvons Jean-Pierre Brognard en direct du Palais Brognard, place de la Bourse à Paris. Allô Jean-Pierre ? Comment s'est passée l'introduction en bourse de SpaceX ?
Cette IPO était absolument extraordinaire et même orgiaque. Le cours de SPCX, Space Exploration Technology Corp, a littéralement enflammé les serveurs du Nasdaq, proposé au public à $150 pour lever 15 milliards de dollars. Le titre a décollé le premier jour avec une pointe à $168 avant de redescendre à $161 à la clôture, avec plus de 500 millions de titres échangés durant cette première séance. Le groupe est donc valorisé à la fin de son premier jour de cotation à 2 trilliards de dollars, soit 112 fois son chiffre d'affaires de 2025, et malgré 5 milliards de dollars de pertes durant le même exercice, le titre regroupant à la fois les activités de SpaceX, de Starlink, de Tesla, de Boeing Company, mais aussi du réseau social XX Twitter, de XAI et de Grok, c'est uniquement sur la hype IA que tout s'est joué. Le marché, saluant la performance de Grok, décrire d'une traite la Grokipédia, une Wikipédia de droite décomplexée, basée que sur des haltes faits, haltes vérifiés, coulant à la fois les business de Matra, du Figaro et de Larousse. C'était une entrée dans les bourses bien couillue, bien masculine, l'exploit technique est doublé d'un essorage des finances publiques, la NASA s'en est pris un bon bout caqué, Elon Musk a réussi son plus beau coup, le premier trilliardaire en dollars de l'humanité est un suprémaciste blanc, comporteur de rumeurs, attiseur d'émeutes meurtrières, menteur aux autorités de contrôle qui en en tant que patron du Dodge et directement responsable de 17 millions de morts. Les bourses sont très enthousiastes d'avoir un tel super patron sous kétamine qui n'a aucune éthique ni retenue, tout comme elle, puisque les places de marché sont 100% staffées d'automates de trading haute fréquence. Les humains ne font que regarder et hébéter. Après avoir conquis les marchés financiers, les nazis vont coloniser l'espace, nous laissant sur place comme des bouses de...
Ah, Jean-Pierre ? Jean-Pierre ? Bon, bah, il a sûrement perdu la liaison Starlink.
Non, je crois qu'il est abonné à CFR Business.
Dommage.
Économie toujours. Comment une immense guerre intergalactique virtuelle a coûté plus de 450 000 euros ? BBC News couvre la destruction sur EVE Online de la coalition Pandemic Horde, pourtant forte de plus de 20 000 joueurs. News couverte en vidéo, s'il vous plaît. Oui, on parle bien du jeu de simulation d'économie intersidérale sorti il y a 23 ans. Cette annihilation d'une coalition est même plus destructrice que le massacre du M2XFE, qui à l'époque avait eu droit à son record Guinness Book. En même temps, l'attrition économique est un moyen très efficace de gagner une guerre. Regardez ce qui reste de Sega. Joie des microtransactions in-game, les guerres sont du pain béni pour les éditeurs.
Le tribunal de Munich a rendu un jugement contre Google, le rendant responsable des hallucinations des résumés IA de Gemini dans ses recherches. Alors, vu qu'on est créateur de contenu avec beaucoup de jeux de mots, de blagues, d'ironie et de doubles négatives, nous sommes très très contents de cette baffe.
IA est moteur de recherche toujours. C'est justement en insistant trop avec ses résumés IA que Google fait fuir son public. Suite à ses annonces à la Google I.O. en mai dernier, DuckDuckGo a noté un très net pic de fréquentation et de téléchargement de leur appli, jusqu'à plus 70% sur iOS dans la journée de l'annonce Google. D'ailleurs, sachez que DuckDuckGo propose une version sans aucune suggestion ni résumé par IA et filtrant autant que possible les sites générés par IA des résultats. Ça se passe sur noia.duckduckgo.com. On l'utilise, ça nous change la vie.
Il y a des fois de très grandes déceptions quand des marques qu'on espère éthiques sponsorisent des influenceurs. Vincent Lapierre, youtubeur d'extrême droite, est sponsorisé par Proton. Oui, le Proton de Proton Mail, etc. Et c'est pas le seul. Ça fout un sale coup au moral.
Wikipédia a viré Brooke Wieber, le lead développeur de son langage MediaWiki, et a banni sa communauté. Pourquoi ? Parce qu'il a tenté de se syndiquer. Yep, Wikipédia fait comme Amazon et les autres géants de la tech, une guerre contre la représentation de ses salariés. Ça fait bizarre, hein ? Dis, t'as pas une news qui remonte le moral, là ? Parce que j'ai un gros coup de blues.
J'en ai une en violet et blanc, mais c'est du foot.
Au point où on en est.
Le site du TFC a été hacké, les sauvegardes auraient été compromises.
Et merde, un nouvel album de Big Flo et Oli d'ici la fin de l'année.
Dis pas du mal des anciens de la radio, j'ai mes tickets pour le Cross Festival.
Et la dernière pour l'été, aucun rapport avec l'IT. La marque surgelée Picard sort 3 glaces événementielles avec 3 festivals et les vendra sur place. Ici à Toulouse, pour le Cross Festival justement, avec un sorbet fruits rouges parfum violette. Qui franchement a goûté des pâtisseries violettes à Toulouse ? Pour Paris, les Solidays, le surgeleur proposera des mochis à la fraise yuzu et mangue. Et pour le troisième festival partenaire, le Hellfest aura des sorbets griottes et piments. Oui, au Hellfest. Donc, c'est officiel, il j'allais en enfer.
Foutu réchauffement climatique, ça dérègle tout.
Et c'est sur cette info dévastatrice que nous terminons les infos de cette saison.
Toutes les sources sont sur la page web des news de cette release cpu.pm/245. Les informations reviennent dans l'émission CPU en septembre.
C'est l'heure de l'agenda de la bricole toulousaine.
L'agenda avec le site labricoletoulousaine.fr. Vendredi 3 et samedi 4 juillet, c'est le festival Fête de l'image 2026 présenté par les Vidéophages. Un festival de l'image sous toutes ses formes, performances, courts-métrages, ateliers. Vendredi à partir de 18h, samedi à partir de 16h jusqu'à 2h du matin. L'accès est gratuit, c'est au parc de la Poudrerie du Ramier, donc sur l'île du Ramier, tram T1. Toutes les infos sur le site lesvidéophages.org. Jeudi 9 juillet et jeudi 16 de 14 à 16h auront lieu les conseils numériques à la Rebouterie. Vous rencontrez un blocage, vous n'arrivez pas à bien utiliser votre ordinateur ou smartphone, la Rebouterie propose des temps de conseils numériques pour résoudre les problèmes du quotidien, mots de passe perdus, gestion des données, photos, documents, etc., gestion des emails, démarches en ligne, etc. Ces conseils numériques ont lieu à la Rebouterie, 29 bis avenue des Mazades, métro Nougaro Minimes, accès gratuit, les infos sont sur leur site larebouterie.fr. Mercredi 12 août, entre 17h30 et 19h17, aura lieu l'éclipse du soleil avec une occultation à 97% sur Toulouse. C'est gratuit, mais attention, protégez vos yeux avec des filtres astronomiques certifiés ISO 12312-2 avec un marquage CE. Car regarder directement le soleil cause des brûlures aux dommages oculaires irrémédiables. Les lunettes de soleil ne suffisent pas, il faut vraiment des filtres spécifiques.
On vous renvoie sur un excellent calculateur astronomique en ligne sur notre site. Et sinon, la Cité de l'Espace sera ouverte jusqu'à 23h avec tout le parc et ses expositions et animations de plein air en libre accès avec à disposition des lunettes de protection adaptées. À noter en accès payant, la présentation du film Total, documentaire tourné lors de l'éclipse totale de 2017 aux États-Unis. Jeudi 19 novembre aura lieu le DevFest Toulouse, une journée de conférences techniques très courue par les professionnels. Attention, les billets sont en vente depuis une semaine, il y en aura bientôt plus du tout. La billetterie officielle est sur devfesttoulouse.fr. Ça sera à Diagora la Beige. Plus d'informations sur leur site devfesttoulouse.fr. Bonnes vacances à toutes, tous et aux autres. Rendez-vous en septembre. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Lost and Found, release EX0245, Lost and Found, juin 2026. Cette release, l'équipe est composée de Touf, Benoît, Gabriel, Dasklitch et Enflammé. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus au long de l'année, dont Thibaut, InfoSec Brunt, Unchenlo, les associations équipes partenaires dont Combustible Numérique, Silicium, Theta Lab, Theta Neutral, Nothing to Hide, Artilect Fab Lab, Eurecafé, Musique Action. L'intégralité du programme, des extraits, nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/245. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi en septembre à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct, il est midi, il va faire 42 degrés, nous retrouvons Monique Blanquet à l'ombre, au frais, faites très attention à vous cet été. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+ et en stream sur Internet.